L'umami, c'est la cinquième saveur, avec sucré, salé, acide et amer. Bah, c'est une saveur qu'on trouve principalement, notamment au Japon.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Zoom Zoom Zen. 2 heures chaque après-midi pour décrypter notre époque sans oublier d'en rire. Et aujourd'hui, non seulement on va rire, mais on va saliver. En se penchant sur ce que certains appellent la cinquième saveur, au-delà du sucré, du salé, de l'amer et de l'acide, existe ce qu'on appelle l'umami. Le terme est né au Japon, mais depuis quelques années, vous l'entendez de plus en plus, notamment dans l'émission préférée de Manon et Cyril, Top Chef. Alors qu'est-ce que l'umami, qui littéralement signifie en japonais « goût délicieux » Une chose est sûre, et là-dessus les inspecteurs du Michelin sont formels, et c'est déjà un début de définition, l'umami est l'exact inverse de toute recette préparée par Manon Mariani avec son air fryer. De sa tristement légendaire bouchetta à sa tentative plus récente mais tout aussi catastrophique de bagel, des recettes que vous ne retrouverez jamais dans le prochain livre de notre collègue François-Régis Gaudry, à moins qu'il décide de surprendre ses lecteurs avec un spécial « Comment perdre 10 kilos avant l'été, mes alternatives gourmandes au Dulcolax ». Zoom Zoom Zen spécial umami, c'est parti.
France Inter. Zoom Zoom Zen. Noël.
Et bonjour François-Régis Gaudry.
Bonjour Mathieu, bonjour à toutes et tous.
Merci d'être avec nous. Alors les auditeurs d'Inter vous connaissent bien, ils connaissent que vous. Vous êtes journaliste critique gastronomique et vous présentez On va déguster chaque dimanche entre 11h et midi sur cette antenne. Votre dernier livre, c'est Recettes et récits. Les meilleures recettes sont celles qui se partagent, qui est sorti il y a quelques mois aux éditions Marabout. Mais si on vous invite aujourd'hui, c'est donc pour décrypter avec nous ce terme culinaire dont on entend beaucoup parler, l'umami. Révolution gastronomique ou simple mode, vous allez tout nous expliquer. On va aussi en débattre parce que visiblement personne n'est d'accord. Juste le temps de vous présenter ceux qui, eux, ont tous vos livres, mais qui n'en ont jamais rien fait. C'est juste de la déco pour eux. C'est de la déco. Incorrigible bouffeur de McDo, Manon Mariani. Quant à lui, bonjour.
Bonjour, bonjour, bonjour à tous. J'ai fait plein de recettes bonjour. De François-Régis.
Moi aussi.
Alors, on va dire que vous avez tenté de les faire, Manon. Chaque jeudi, vers 11h45, allez, on commande McDo. Moi, je leur dis non, quelle horreur. Allons plutôt manger équilibré à la cantine. Voilà. Mais non, ils insistent et m'entraînent dans leur dépravation gastronomique, ruinant mes efforts quotidiens à la salle de sport, alors même que sans ça, j'étais quasiment aussi sec que Léon Marchand. Quentin, je ne vous remercie pas.
Non, bah, d'autant que vous me devez 3 McDo en plus.
Ah, c'est vrai. Ouais, oh, j'oublie toujours de te régler.
Ah, le remboursement. Oh, c'est pas très grave. Fief, je n'ai pas.
Vous n'avez pas Lydia en même temps.
Je te présenterai la facture de l'ogre si tu veux le jour. Si tu veux en échange.
C'est vrai. Non.
Quentin, vous, dont le palais est très fin puisque vous pouvez distinguer à l'aveugle 15 types de merguez différentes.
C'est vrai.
Dites-nous, dans la rue, les gens, ils voient ce que c'est l'umami?
Absolument pas. Pour la très plupart, bien. Ils ont découvert le mot, mais en leur expliquant ce nouveau goût réconfortant, long en bouche qu'on peut trouver soit dans un bouillon ou des viandes mijotées, on a vite discuter des plats préférés et des histoires qui vont avec.
À vos côtés, François-Régis, elle est la preuve vivante que même en achetant vos livres, même en suivant pas à pas vos recettes, on peut malgré tout aller dans le mur. Hier soir, en rentrant à la maison, son petit ami, qui en est déjà à sa 7e indigestion en 3 mois, a tenté un maladroit. Non. Oh chérie, et si on commandait Deliveroo ce soir? Non, j'ai acheté ce air fryer, ça m'a coûté une blinde, alors ce soir, c'est tagine de la mer.
Oh.
À l'heure où on se parle, nous n'avons plus de nouvelles du petit ami de la Marianoche. Ouais. Mais non,
il est sous Imodium.
Pour vous rattraper, vous allez nous parler de quelqu'un qui, lui, sait cuisiner.
Oui, mon chef préféré de Top Chef, il a 3 étoiles au Michelin et cette saison, il a aussi le meilleur candidat dans sa brigade, selon Cyril et moi, de fin gourmet, en espérant qu'il entende ma petite chronique pour que j'obtienne une invitation dans son établissement.
Ah, on se cache plus.
Ça m'étonnerait, mais bon.
Bah, s'il est aussi réactif que 3 gros qu'on avait reçus ici, vous êtes parti pour bouffer McDo encore un moment. Vers 16h30, interdiction à François-Régis de venir à l'aide de Manon ou Quentin dans le Zoom Zoom Test, puisqu'on jouera avec le jargon parfois très cryptique de la gastronomie, car il n'y a pas que l'umami qui revient beaucoup en ce moment. On verra si vous connaissez le sens d'autres expressions en vogue, comme par exemple la mentecatura, qui sera l'occasion pour moi de refaire l'accent italien. Vous ne vous en lassez jamais. Juste à 17h, lui non plus, on ne s'en lasse pas, même si à la fin de l'été, on en aura peut-être marre de l'entendre. Jessé nous rejoindra. Jessé que vous retrouverez donc tout l'été pour des chroniques spéciales. Il vous expliquera. Après 17h, Jessé restera certainement pour rencontrer Fabien Galthié, car il n'aime pas le rugby, mais beaucoup ceux qui le pratiquent. Oui, l'entraîneur du 15 de France sera avec nous juste avant la grande tournée en Nouvelle-Zélande. Mais d'abord, François-Régis Gaudry, revenons à nos fourneaux. Difficile de décrire un goût. Heureusement, on peut faire appel à vous. Dites-nous à quoi ça ressemble pour vous, ce fameux goût de l'umami dont tout le monde parle.
J'ai longtemps cherché et j'ai même envie de dire que ça a été mon métier quasiment de chercher la saveur et l'intensité dans des plats que je dégustais depuis maintenant un paquet d'années, hein, ça fait un demi-siècle. Et c'est vrai que l'umami, c'était pour moi un mot, effectivement, comme vous l'avez dit, d'origine japonaise. un peu jargonneux. Et peu à peu, il s'est effectivement imposé, à la faveur aussi de nouvelles recherches. Et puis, j'ai appris à l'apprivoiser, à titre personnel. On est tous un peu des Monsieur Jourdain de l'Umami. On sait que l'Umami existe, on sait qu'il est, il correspond à une réalité scientifique et chimique. Simplement, on ne l'apprend pas tellement à l'école. Autant on arrive à repérer lorsque l'on déguste, qu'on croque une endive ou que l'on déguste un café ou qu'on mange une glace, on arrive à repérer le sucré, l'acide, l'amer, le salé. Ouais. Mais l'umami, ça reste très mystérieux. Et pourtant, l'umami n'est pas que, comme on a pu l'entendre dans l'accroche de l'émission, certes le mot est japonais, mais ce n'est pas une saveur uniquement développée dans la gastronomie nippone. Et c'est vraiment, effectivement, la cinquième saveur qui est tout à fait universelle et commune à de très nombreuses civilisations culinaires.
On va y venir, on va goûter visiblement. 3 ans, lui, qu'il milite pour qu'on vous reçoive dans Zoom Zoom Zen, François-Régis Gaudry. Il a tous vos bouquins. Du temps de sa splendeur, il se débrouillait même pour que ses lacarzous lui offrent vos livres. Désormais confronté à une inquiétante pénurie de lacarzous, il est obligé de les acheter lui-même avec son argent. Du coup, il cuisine moins. Et ça s'en ressent un peu sur ses goûts. D'abord, cette passion coupable pour les curly, jusqu'à cette confession.
Faux,
cette confession effroyable.
Non, curly, c'est faux.
Cette confession effroyable l'autre jour.
J'aime bien le quick and toast.
Ça, oui. Voilà. Ça, vous pouvez le répéter devant François.
J'aime bien le quick and toast.
Il aime bien le quick and toast. Qu'est-ce qu'un type qui aime bien le quick and toast peut-il avoir à dire à l'emblème de la gastronomie d'Inter ? Découvrons-le tout de suite. Cyril, malgré la panne de ChatGPT cette semaine, vous avez réussi à apprendre une chronique. Et alors, l'umami, d'où ça sort ?
Direction le Japon, vieille canaille, et le début du XXe siècle. Je vous propose de faire connaissance avec Kikunae Ikeda, à l'époque professeur au département de chimie de l'école des sciences de l'université impériale, qu'on appelle maintenant plus simplement l'université de Tokyo. Revenu au pays après des études en Allemagne et au Royaume-Uni. Et c'est important parce que c'est là-bas que le jeune homme s'initie au goût. Et selon la légende, c'est aussi là-bas qu'il aurait détecté un autre goût que ceux que nous connaissons, à savoir, on a commencé à le dire, le sucré, le salé, l'acide et l'amer. De retour à Tokyo, ce chimiste de formation se met en quête de l'origine de cet autre goût, avec une question en tête. Pourquoi le dashi, c'est un bouillon à base d'algues, a-t-il un goût si particulier que rien ne permet a priori d'expliquer ?
Et alors la réponse ?
Eh bien, en analysant cette algue, le kombu, il découvre un acide aminé qui répond au doux nom de glutamate monosodique, le MSG ou le GSM non officiel E621. Ouf. Le glutamate monosodique, on en trouve naturellement dans de nombreux aliments, ce qu'on appelle un agent de saveur ou exhausteur de goût. Ce goût, Ikeda, décide de lui donner un petit nom, umami, néologisme fabriqué de deux mots, umai, qui veut dire délicieux, et mi, qui veut dire goût. Et c'est ainsi, vous l'avez dit Mathieu, qu'on arrive à goût délicieux en 1908 au Japon. Chose étonnante, il faudra attendre près d'un siècle pour que cet umami soit reconnu ici en Occident comme un goût fondamental, au même titre que les quatre autres. Et alors, pourquoi est-ce qu'on a pris autant de temps à l'accepter ? Comment définir l'umami ? Est-ce qu'on le trouve surtout dans la nourriture asiatique ? A priori, non. Est-ce que cet acide aminé peut être néfaste pour la santé, comme le pensent certains ? Pourrait-on découvrir encore d'autres goûts ? C'est ce qu'on va voir durant une heure.
Merci Cyril, et le mot chimique n'étant pas japonais, je crois que au lieu de glutamate, vous pouvez dire tout simplement glutamate. Je pense que
moi
ça fonctionne
bien,
aussi. Mais vous aimez aller jusqu'au bout hein, de vos chroniques. Merci Cyril. François-Régis Gaudry, est-ce que pour vous cet umami, c'est un autre goût, au même titre qu'on a dit le sucré, le salé, l'acide ou l'amer, ou bien c'est un mélange de saveurs ?
Non, c'est véritablement un autre goût, et en fait on peut tous s'exercer, s'entraîner pour essayer de l'identifier. Quand on goûte parmi les ingrédients que j'ai apportés, ils ont tous pour point commun d'être porteurs d'umami, même si on a affaire à des légumes bruts, parfois à des légumes fermentés, ou à des sauces, des condiments, du fromage. L'umami, en fait, on a souvent tendance à le confondre avec le sel, alors que c'est pas tout à fait la même chose. On a découvert par exemple récemment que les vins qu'on aime beaucoup, qu'on trouve persistants, dont on dit qu'ils ont une finale saline, en fait, en réalité, on fait un peu une confusion parce qu'il ne s'agit pas du sel au sens chlorure de sodium, hein, c'est pas comme le sel fin que l'on met sur son steak, il s'agit vraiment d'un agglomérat d'acides aminés qui procure justement une persistance, une longueur en bouche, une certaine satisfaction en bouche, une sensation un peu enveloppante, et justement un grand nombre de grands vins comportent de l'umami, et ça c'est une découverte récente. Donc la difficulté, c'est que l'umami, il faut apprendre à le distinguer de l'amertume, surtout le distinguer du salé, parce que c'est surtout avec le sel que l'on confond l'umami, et une fois qu'on arrive à peu près à se concentrer, à s'interroger sur les effets gustatifs d'un aliment qu'on a en bouche, peu à peu, on arrive à le dompter. C'est ce que font d'ailleurs très naturellement les Japonais. Vous prenez un Japonais de 7 ans à l'école, l'umami c'est quelque chose de très naturel, il sait parfaitement distinguer l'umami, au point que l'umami
il
d'ailleurs...
Il dit c'est un plat qui manque d'umami.
Mais il peut le dire. Et à tel point d'ailleurs que l'umami est un vrai problème de santé publique au Japon, parce que, comme vous l'avez dit très bien, l'umami c'est aussi un exhausteur de goût et donc un additif qui peut être utilisé par la agroalimentaire pour booster,
donc quand on pour intensifier le goût. Bon pour la santé.
Alors, ça, il y a des études. Et pour le, pour le coup, on n'a pas, on a des conclusions plutôt contradictoires, mais il y a effectivement quand même un soupçon de toxicité sur l'umami. En tous les cas, l'industrie agroalimentaire japonaise est boostée d'umami et les jeunes japonais le savent.
Pour qu'on se rende compte, prenne conscience de l'amplitude des produits dans lesquels on trouve cet umami, vous nous avez apporté quoi là ?
D'abord, il y a des produits bruts. Ça se passe très souvent, en fait, étonnamment, dans des produits végétaux. Là, en l'occurrence, il y a du brocoli. Il y a du champignon de Paris, et on parle de produits crus, qui ont vraiment de l'umami à l'état naturel, mais j'aurais pu vous apporter également une tomate fraîche. Ici, je vous ai apporté une tomate séchée, parce qu'évidemment, quand on fait sécher la tomate, on intensifie sa teneur en umami. Mais vous avez également de l'umami dans l'asperge, vous avez de l'umami dans le petit pois, autant de légumes qu'on apprécie beaucoup, précisément parce qu'ils apportent une espèce de bien-être gustatif.
Ah oui, oui.
Et puis ensuite, l'umami se développe beaucoup dans des produits transformés. Alors, ce peut être évidemment le fameux coup de la viande, vous savez, de la viande cuite. Hein. Lorsque vous prenez un steak, vous mangez un carpaccio, la viande a un certain goût. Et dès que vous la grillez sur une plancha ou un barbecue, il y a une caramélisation qui s'opère à la surface de la viande qu'on appelle la fameuse réaction de Maillard. Et on transforme à ce moment-là les protéines. Et de la transformation de ces protéines est engendré justement des acides aminés qui sont porteurs de glutamate de sodium. Et justement, une viande très grillée au barbecue, elle comporte cet umami qui est extrêmement satisfaisant en bouche. Donc la cuisson est un agent d'umami. Et puis ensuite, vous avez évidemment la fermentation. Je vous ai pris par exemple, tenez, bah ça c'est évidemment japonais, mais vous avez également la même chose dans beaucoup de sauces de plats français. La sauce soja contient énormément d'umami, et ça, ça permet d'apporter beaucoup de relief
beaucoup
et beaucoup d'intensité gustatif à du riz, à de la viande, à du poisson.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël sur France Inter.
Et si, lors d'un prochain dîner, au lieu de dire bêtement que c'est trop salé ou trop amer, vous suscitiez enfin l'admiration des autres convives en disant c'est pas mal, mais ça manque un peu d'umami. Zoom cet après-midi sur ce terme culinaire qui fait référence à la cinquième saveur. François-Régis Gaudry est avec nous. François-Régis, on voit bien ce qu'apporte le sucré, le salé, l'acide ou l'amertume à un plat, mais qu'est-ce qu'apporte l'umami ?
Beaucoup de satisfaction. Mais c'est ça le problème, c'est que le problème de l'umami, c'est qu'on considère ce mot comme légèrement abstrait, on a du mal à lui plaquer une réalité gustative, et il est vrai qu'on tourne un peu autour en essayant de le définir, mais moi je dirais que, d'ailleurs la preuve, c'est qu'en japonais, goût délicieux, on pourrait dire en français que c'est tout ce qui relève du savoureux, de la sapidité peut-être. Moi j'ai envie de parler aussi d'intensité, de persistance et de profondeur de goût. Voilà. Lorsque vous avez à un moment donné que vous goûtez, par exemple, tenez, parce qu'il y a beaucoup d'umami dans beaucoup de fromages, parce que l'umami est souvent le résultat de la fermentation. Et par exemple, une bombe d'umami, c'est le parmesan que j'ai apporté ici. Et ce parmesan, essayez d'analyser, il y a évidemment de la rondeur et du sucre. Il y a évidemment une note salée, parce que c'est un fromage qui est salé. Et puis après, vous avez ce qui relève de la longueur en bouche et qui vous chatouille un peu le palais, le fond de la langue, et qui vous fait extrêmement saliver. Parce que l'umami, ça fait saliver. Donc on pourrait aussi dire, on pourrait donner comme synonyme de umami, salivant. C'est ce qui vous met vos glandes salivaires en surchauffe.
C'est salivant,
et vous direz. Voilà, et ça vous donne envie d'en reprendre. Ouais. Et c'est un peu finalement comme une drogue alimentaire.
C'est quoi la différence entre un goût, une saveur et un exhausteur de goût ?
Le goût, la saveur, c'est la perception sensorielle dans la cavité buccale de ce que l'on mange et de ce que l'on ingère. Et après, l'exhausteur de goût, c'est précisément toute la famille des condiments. Alors, ça peut être des exhausteurs de goût naturels, mais c'est souvent malheureusement des additifs utilisés par l'agroalimentaire. Et ça, c'est précisément des noms barbares comme E620, E621, jusqu'à E625, par exemple, de E620 à E625. Si vous trouvez ça, c'est un peu un gros mot sur la liste des ingrédients sur l'étiquette d'un produit. Tout ça, c'est la famille des exhausteurs de goût umamiesques.
D'accord. Voilà,
qui sont utilisés par l'agroalimentaire dans, par exemple, si on peut citer certaines chips, vous savez, quand vous avez goût barbecue. Souvent, vous retournez.
C'est pour ça que c'est addictif, ces trucs-là.
Mais voilà. Et vos enfants sont accros à ça.
L'umami peut être un piège, alors, s'il
est industrialisé. Bien sûr que l'umami est un piège. Vous savez, le problème, c'est un peu comme si vous aviez un grand photographe, d'ailleurs, ça va arriver, un artisan de la photo qui, tout d'un coup, utilise l'intelligence artificielle pour améliorer sa photo. Là, on est un peu dans la même idée, en fait. C'est-à-dire que c'est une espèce de cache-misère, parce que très souvent, en plus, l'umami, c'est-à-dire le glutamate monosodique que vous trouvez dans des ingrédients comme les gâteaux apéritifs, ou ça par exemple qu'on voit beaucoup au Japon, s'appelle Ajinomoto, c'est une espèce de poudre blanche, ça ressemble à une drogue en fait, et ça c'est utilisé dans certains restaurants asiatiques par exemple, et beaucoup au Japon, pour booster certains bouillons,
comme du sel,
exactement comme du sel. mais en fait, ça permet de donner du relief très souvent à des plats qui manquent un peu de qualité. Quoi.
Oui, mais alors, si c'est savoureux, si c'est long en bouche, on a envie d'en mettre partout. Oui. Comment on fait pour se séparer de ça? Qu'est-ce qui tranche l'umami? Qu'est-ce qu'on met à côté?
Il faut une réglementation stricte. Prenez par exemple l'alimentation bio, elle interdit l'usage d'additifs alimentaires umami. Elle interdit l'usage de glutamate monosodique, de glutamate monopotassique, de diglutamate de sodium et j'en passe, autant de noms barbares. Toute l'idée, c'est d'essayer de dompter l'umami quand on est un grand chef et de le faire avec des ingrédients naturels et des processus culinaires totalement naturels. Et ça, c'est possible. C'est tout l'intérêt et la grandeur de la gastronomie.
Lui, j'ai été obligé de finir sa côte de bœuf avant-hier. C'est dommage, avec Cyril, on s'était mis d'accord pour le garder la saison prochaine, mais là, refus d'obstacle devant une béarnaise, on va être obligé de s'en séparer.
Ah, vous êtes dur, les gars.
Non, on finit son assiette dans
Mais j'étais avec Ghislain, en plus, qui n'a pas fini non plus. Parce qu'on la partage, une côte de bœuf.
Mais quand même, enfin, moi, j'ai pu la goûter, ça me va bien. Quentin, vous faites un petit effort pour terminer votre assiette la prochaine fois. L'umami, un mot déroutant que vous avez soumis aux passants dans la rue.
Je suis parti au moment de la pause déjeuner. Le soleil tape fort sur les coups de 11h45. Les terrasses vont se remplir dans quelques minutes et les gens de bureau ont commencé à prendre des plats à emporter juste à côté. C'est ici que je rencontre ces deux copines à qui je fais lire l'umami.
Oh, c'est pas un... Putain, je sais plus. Ah mais oui, mais purée, mais je suis trop bête. Bah c'est le cinquième goût.
Ouais. L'umami, c'est aussi une sensation de... Je prends une bouchée et waouh.
Peut-être, je dirais, les fruits et légumes du potager de mes grands-parents. Ils ont un goût différent. Les pommes de terre, elles n'ont pas le même goût que les pommes de terre de d'habitude. Ah ouais. Et en fruits, bah, la tomate, mais les cerises, je sais pas. Parce qu'elles sont meilleures, il y a un truc en plus. Peut-être la terre du jardin, elle est mieux. Le soleil, la chaleur, et même, genre, je pense qu'il y a aussi un côté de « Ah, c'est chez les grands-parents, c'est les vacances, c'est ci, c'est ça. » Et ça rajoute, en fait, du goût même à l'aliment. On se dit « Ah, on est bien là. »
Est-ce que le contexte, le cadre, les gens autour de la table changent le goût de ce que l'on mange? Lui porte la chemise et la veste de costume bleu, malgré la météo qui recommande à Marcel, à tout le monde. Que fait Raimundo dans la vie?
Je suis étudiant en master de formation de traduction et interprétation.
Vous avez grandi où, vous?
En Argentine.
Je lui fais lire le mot qui nous intéresse aujourd'hui.
Umami. Umami, prononcé umami. Je savais que c'est une saveur, mais j'ai jamais eu la chance de le goûter.
Donnez-moi votre plat préféré argentin.
Alors c'est l'asado, de loin, c'est la barbecue. C'est vraiment une traditionnelle, il y a tout un côté culturel. Et bon, la viande, incroyable, salée, c'est un goût salé. Et la chocotorta.
Oui, et alors, le goût de la viande marqué par la grille qui la sépare de la belle braise, il y a un peu d'umami dans l'air. Dans ce quartier de bureau, je rencontre ce grand monsieur. T-shirt, jean, basket, je pense qu'il chose du 46 facile.
Bonjour.
Vous êtes très grand, vous?
2 mètres.
2 mètres?
Ouais.
J'ai vraiment l'air petit à côté.
Ça fait ça à beaucoup de monde. L'umami, je connais pas du tout. C'est la première fois que je vois ce mot.
Frédéric a 43 ans, je lui demande quel plat lui donne une bouchée de saveur semblable à l'umami.
Le bœuf bourguignon que faisait mon père en Bourgogne. Il m'a laissé la recette, mais j'ai jamais osé. Je veux juste garder le souvenir. Quand on n'avait pas terminé le plat, il mijotait encore toute la nuit et il était resservi le midi, le lendemain. Et alors là, c'était l'extase. On sentait qu'il avait pris vraiment tout le parfum de la sauce, du bouillon, et on savait que ce plat-là, ben, on pouvait le retrouver nulle part ailleurs.
Toutes ces saveurs, forcément, je pense à « On va déguster ». Je lui parle de vous, François-Régis Gaudry.
François-Régis Gaudry, vous dites? Ah, ça me parle pas.
Vous savez pas qui c'est?
Non.
Vous suivez pas la page Instagram de France Inter, vous? Je vous montre ce qu'il fait, ok?
Hello les amis, aujourd'hui c'est clafoutis, mais attention, un clafoutis de folie, un des meilleurs clafoutis que j'ai fait.
D'accord. Il donne des recettes?
Oui, bah c'est un peu votre truc, on va le dire. Une sorte de Maïté sans anguille. Cette femme passe devant moi maintenant. Pop, on va faire connaissance. Comment elle s'appelle? Josette, elle a 57 ans, est originaire de la Guadeloupe. Elle découvre.
Oh là là, l'umami. Non, je sais pas du tout ce que ça veut dire. L'umami. Ah, l'umami.
Mais vous connaissez cette sensation-là?
Si. Mais ça m'arrive très rarement. Ça m'est arrivé avec un gâteau de chez moi. Un gâteau, je vais vous dire, à l'ananas, avec du bon rhum vieux dedans. Trop bon, délicieux.
Bon, c'est du sucré, mais on va quand même la faire partir comme ça. On va passer en mode recette. Hello les amis, aujourd'hui, un plat insulaire qui nous vient de la Guadeloupe. Josette nous donne sa version du gâteau à l'ananas.
En fait, on fait une caramel dans le fond du plat. On prend des rondelles d'ananas qu'on met en fonction du plat. Mais ce qui donne du goût, c'est le rhum. On met beaucoup d'épices, nous, tout ce qui est cannelle, quatre épices, muscade, vanille, des choses de ce genre. Et puis, on mélange le tout ensemble, on met au four. Et une fois que c'est cuit, déjà, on retourne. Doit... Et c'est bien doré, bien caramélisé. Là, je vous assure, sous les cocotiers, avec un bon punch, ça descend très bien.
bouquet de saveurs, c'est bientôt la fin de la pause déj. Ce jeune homme vient de finir son service tablier autour de la taille.
Bonjour.
C'est la pause ou quoi ?
Oui.
Comment ça s'est passé ?
Beaucoup de monde.
C'est vrai ?
Ça va. L'umami, c'est la cinquième saveur, avec sucré, salé, acide et amer.
Alléluia, vous savez ce que c'est. Qu'est-ce que vous savez sur l'umami que vous pouvez me dire ?
C'est une saveur qu'on trouve principalement, notamment au Japon. Et voilà, c'est à peu près tout ce que je sais avec la petite anecdote sur les testicules qui sont capables de le sentir. Du coup, si vous les mettez dans de la sauce soja, normalement, vous pourrez le sentir.
C'est une plaisanterie ?
Non. C'est une bizarrerie du corps humain.
Il y a des papilles gustatives ?
Oui, juste en dessous.
Allez, bonne journée à vous.
Allez. Bonne journée à vous également.
Allez, bonne
quand vous avez dit « allez », j'ai cru que vous le testiez en direct, en fait. Et je me dis, c'est incroyable comme moment de radio. Mais alors, non, vous n'êtes pas allé jusque-là, Quentin.
Ce n'est peut-être pas scientifique, mais aujourd'hui, on l'a appris. L'umami peut se sentir sur la langue, dans le cœur, et même un peu plus bas.
Oh non, je sais. Voilà. On rappelle que l'umami, c'est surtout un son.
Ah.
C'est ce moment, c'est ce moment de jouissance gustative, oui, quelque part. François-Régis Gaudry, on parle beaucoup du contexte qui va avec le fait de savourer un plat. J'ai l'impression qu'il y a une dimension psychologique quand même. Est-ce que cet umami, même si c'est, on l'a dit, quelque chose de chimique qu'on peut isoler, identifier clairement, est-ce qu'il n'y a pas une part de psychologie avec qui on partage un plat qui change le goût ?
Oui, il est d'ailleurs prouvé qu'au-delà de la réalité physico-chimique d'un plat que l'on déguste, ces saveurs peuvent être intensifiées par le contexte dans lequel on le déguste. Moi, par exemple, ma grand-mère, elle faisait une soupe corse parce qu'elle était originaire de Bastia. Et quand elle venait à Lyon nous préparer cette soupe, elle n'avait jamais vraiment le même goût. Elle allait même jusqu'à emporter ses légumes de Corse. Alors elle se disait, est-ce que c'est l'eau qui, à Lyon, est plus calcaire et différente ? Est-ce que c'est la cocotte de ma mère qui n'était pas la même que celle qu'elle utilisait à Bastia ? Et en fait, on s'est rendu compte que la soupe corse de ma grand-mère, elle avait tout simplement le goût de chez elle, en quelque sorte, quoi. Le goût des gens qui étaient autour de la table, de la lumière, de l'odeur de la pièce, etc. Ça, c'est des facteurs qui jouent beaucoup.
Ce cuistot qui me parle des papilles gustatives bien placées, je suis obligé de vous faire réagir. Vous en aviez entendu parler ou c'est une blague de cuisine ?
Vous voulez dire ?
Sur les testicules dans le soja.
Je pense que c'est une blague potache.
Ah ouais, ouais.
Oui, Quentin, je pense on ira pas jusqu'à faire l'expérience.
Et après, on peut essayer d'expérimenter la chose, mais honnêtement, je crois que ça marchera pas.
La viande braisée de l'Argentine.
Et clairement.
Ouais, je suis obligé de vous faire réagir là-dessus. Parce
mais
que,
oui.
Pareil, il parle d'un contexte. Hein. On est en famille, on est ensemble. Et quand on a la viande comme ça, qu'on vient saler, là, on a de l'umami.
Eh oui, il y a l'umami objectif, scientifique, physico-chimique de cette grillade de viande qui provoque vraiment une réaction chimique et qui dégage du glutamate de sodium. Ça, c'est une réalité, c'est prouvé. Et puis ensuite, il y a évidemment, on va dire, l'umami un peu fantasmé ou subjectif, du moment partagé, du soleil qui se couche, de l'alcool qu'on y ajoute un peu et qui nous rend encore plus réceptif aux émotions gustatives.
Bah justement, Manon, vous avez une question.
Oui, non, mais vous nous montriez là, l'espèce de sel japonais. Est-ce qu'un jour, on pourrait avoir des aliments avec marqué saveur umami dessus ?
Je pense que ça va arriver.
Ouais. Ah oui ?
Compte tenu du fait que umami est désormais un hashtag qui a énormément de succès sur les réseaux sociaux, qu'il est utilisé. Moi-même, je m'interdis un peu maintenant parce qu'à un moment donné, j'avais un peu le tic d'employer l'umami à toutes les sauces, notamment dans l'émission Top Chef à laquelle je participe. Et c'est vrai que je m'interdis un peu de le faire parce que la réalité, c'est que l'umami, il est présent partout. Il faut plutôt ensuite s'interroger sur les nuances de l'umami et essayer de varier un peu son vocabulaire. Mais il y a un projet de chips où je crois même qu'elles sont déjà sorties. Qui,
chips umami,
ouais, qui affiche justement saveur umami, ouais.
France Inter, Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël.
Ils vont déguster, c'est comme ça qu'en hommage à l'émission de notre invité François-Régis Gaudry, j'aurais pu appeler le quiz quotidien qui oppose Manon à Quentin. Jouons au Zoom Zoom Test. À la découverte aujourd'hui des mots pittoresques et parfois même chatoyants relevant du lexique des saveurs et des arômes. Pour plus de contexte, imaginons, nous sommes fin juin 2026. La dernière veille sanitaire de Manon sur la trend TikTok du Bubble Paper Challenge, qui consiste à manger le plus de papier bulle en une minute, vient de dépasser les 10 millions de vues. La consécration pour la Marianoche qui envoie tout de suite un vocal empreint de modestie à Quentin.
Est-ce que toi aussi t'as l'impression que par moment, des gens te reconnaissent ?
Oui, elle est désormais une star.
C'est une vraie histoire.
Mais tout ça a-t-il vraiment un sens, se demande-t-elle en regardant l'alerte Morandini selon laquelle Charlie XCX, son idole, annonce l'arrêt de sa carrière pour se consacrer à l'apiculture. Soudain, c'est l'illumination pour Manon. Alors que son air fryer lui indique que sa pasta box est prête, elle comprend qu'elle doit se consacrer à sa vraie passion, la cuisine. Ni une ni deux, elle se crée un nouveau compte Insta, Cooking Beach, pour partager ses meilleures recettes avec ses fryzous. Pour frapper un grand coup, elle commence par publier son iconique bouchetta revisité. Après 24 heures, le bilan est mitigé. 10 likes et un seul commentaire signé Pierre C. De une, la gastronomie italienne n'existe pas. De deux, à vue de nez, on est parti sur une note empyreumatique. Empyreumatique, ça signifie que la bouchetta a pris le goût métallique du air fryer, la bouchetta est cramée, ou la bouchetta, comme le cif de Benjamin Tranier, offre des relances sévèrement musquées.
B et C.
Vous vous dites A, Manon.
Oui.
Ah, en même temps, c'est un air fryer, vous connaissez la machine, vous connaissez... La bonne réponse était la B. Catastrophe.
Ça marche pas.
Comment ça
Mais c'est la fin, on fait n'importe quoi.
Donc les règles du Zoom Zoom Test changent. Non, c'est une mauvaise réponse, évidemment. Le mode d'emploi était en anglais, Manon a confondu les degrés Fahrenheit et Celsius, qu'à cela ne tienne. Pour son deuxième poste, Manon décide de créer le buzz autour d'un incroyable accord mets-vins. Pour l'aider, elle se tourne vers William, le fringant tenancier du bistrot Blériot, en pleine expansion, puisqu'il se diversifie actuellement dans la crêpe. Elle va nous cuisiner quoi, la citoyenne. Ça, c'est vrai, oui, très bien, faut que je lui fais de la pub, je sais pas pourquoi. Elle va nous cuisiner quoi, la citoyenne du monde du 11e? Des rognons flambés à l'armagnac, une belle andouillette? Non, monsieur William, un tataki de carottes et sa purée de fenouil. Pour accompagner, je pensais à un vin nature. Après s'être auto-réanimé avec un shot de chartreuse, William lui propose un petit terrasse du Larzac. Moi vivant, tu parleras jamais de vin nature, c'est de la pisse de yak, t'as aucun arôme tertiaire. Mais justement, Manon Quentin, ça veut dire quoi? Qu'un vin développe des arômes tertiaires. Que sa complexité est liée à l'utilisation de plusieurs cépages, qu'il a un goût de fruits frais et de fleurs blanches, ou qu'il développe des arômes liés au vieillissement en cuve ou barrique.
Comme ça, on n'est pas d'accord.
Voilà.
C'est bien.
On n'est pas d'accord, mais malheureusement, c'est Manon qui a raison. Bonne réponse de Manon Mariani. Effectivement, notez que les arômes quaternaires, eux, sont dégagés parce que Manon dépose certains dimanches matin à l'aube sur les trottoirs parisiens.
En vin, t'es imbattable.
Ouais, c'est vrai.
Non, c'est vrai qu'elle est
imprenable.
Et puisque nous évoquons les fumées sauvages, reparlons de la fragrance du cif de Benjamin Traillet qui, j'ai senti, a intrigué notre invité. Fragrance qui se situe dans le même spectre aromatique que le houmous revisité par Girol Fontana, la femme de notre réalisateur éco-responsable. Figurez-vous qu'en cuisine, cette petite odeur de terre après la pluie, a un nom. Ça s'appelle le pétrichor. Ça s'appelle le bircoju. Ou ça s'appelle l'aldéhyde.
C'est.
Maintenant, je vous présente souvent comme nul en cuisine. Et finalement, vous êtes en train de remporter la mise. Oui, réponse A. Attention, mode quai savoir 2000 activé. Le pétrichor, on dirait un Pokémon. Ça vient du grec pétra, la pierre, et ichor, le fluide. Ce qui peut se traduire par sang de la pierre. Et ça désigne l'odeur caractéristique qui se dégage de la terre après la pluie, notamment lors des périodes de temps chaud. L'aldéhyde, c'est autre chose. C'est ce qui fait que notre rédacteur en chef peut renvoyer un plat en cuisine en disant hey, « Hé toi, jeune puceau avec ton tatouage baliné et tes cheveux orange qu'on dirait GC, tu me sers plus jamais cette merde, sinon t'es grillé dans le métier, ok ?» Car l'aldéhyde est un composant de quoi? De l'asperge? De la coriandre? Ou du savon?
B.
Ah, je suis devant.
Non.
Je vous donne, vraiment parce que je suis châtié de charitable, l'opportunité d'une autre...
Les trois. Les trois.
B et C.
Bravo, Manon, bravo. Quelle bonne réponse. Fascinante chimie, pas étonnant que la coriandre sente le savon. C'est tout à fait normal puisque l'aldéhyde est un composé organique très volatile, présent à la fois dans la coriandre et le savon, ce qui explique que, selon une étude de 2012, 17% des Européens, dont Cyril, donc, ne supportent pas la coriandre. Cyril ne supporte pas non plus Pierre Courade, mais là, c'est en raison de la mauvaise foïde présente en grande quantité dans l'ADN de notre rédacteur en chef adjoint. Allez, pour vous départager, une question simplissime pour faire référence à un concurrent de François Régis. L'umami serait donc cette fameuse cinquième saveur primaire dans la liste suivante. Laquelle ou lesquelles ne font pas partie des quatre autres? Le gras?
Je comprends rien.
Le salé?
Si.
Ou l'astringent?
A.
B. C.
À vous deux, vous avez la bonne réponse.
A et C.
François Régis?
Je suis pas sûr d'avoir compris la question.
Bah oui.
Non,
alors
mais
c'est
moi
souvent
non plus.
Le cas.
C'était
c'est
la réponse. Les réponses A et C. Et pour une fois, victoire du bon goût, victoire de Manon Mariani.
Ah oui, bah franchement.
Mais Manon, je retire tout ce que j'ai dit.
Merci à tous.
Tout ce que j'ai dit sur vos expériences en cuisine.
Une petite bouchetta.
Non, non, jusque-là.
Laissez-la bien chez vous.
Là, on est bien, on n'est pas trop loin. Zoom aujourd'hui sur un mot, une expression que vous entendez beaucoup, notamment dans les émissions culinaires. Nicoletta, s'il te plaît.
Oh, ah. Bien joué.
Umami, un terme qui nous vient de plus loin encore que Nicoletta, du Japon. François-Régis Gauthier est toujours avec nous pour percer le secret de sa saveur, qui serait donc la cinquième. François-Régis, on recevait récemment un autre critique gastronomique ici même, François Simon, que vous connaissez bien. Alors lui, il est assez réservé. Hein. Quand on lui a parlé d'Umami, il s'est un peu foutu de notre gueule.
Il y a pas mal de chefs, justement, ouais. Et notamment étoilés, et pas mal de critiques gastronomiques qui font un peu un rejet de l'Umami au nom d'un certain snobisme.
Ah, finalement, ça devient snob de ne pas parler d'Umami.
Moi, je pense. À partir du moment où on sait que l'Umami, encore une fois, correspond à une vraie réalité, qu'on peut l'identifier, qu'on peut l'expérimenter, pourquoi finalement ne pas l'utiliser ? C'est vrai que c'est un truc assez nouveau. Il y a peut-être un peu trop de... On s'excite un peu beaucoup autour de ce mot et on l'utilise à tort et à travers sur les réseaux sociaux, dans les émissions, dans les livres de cuisine. Certains préfèrent s'en passer, aussi peut-être par sobriété.
Dans Top Chef, on en parle. Est-ce que vous savez si ça infuse jusque, je sais pas, dans les écoles de cuisine, par exemple, parce qu'on commence à former les apprentis à ce mot d'umami et à ce...
Eh bien, Mathieu, je discutais précisément avec un professeur de cuisine de l'école Ferrandi, qui est une de nos meilleures écoles en France, et précisément, ils intègrent un cursus. Il y a dans le cursus...
Il y a un master umami ?
Non, il n'y a pas un master umami encore, mais il y a en tout cas un cours consacré effectivement à la détection de l'umami. Ça peut être très pratique pour les chefs qui précisément cuisinent. Il faut quand même imaginer que la cuisine française est championne en umami, et que on évoquait évidemment le bœuf bourguignon, mais beaucoup, beaucoup de plats par réduction, par concentration des sauces, sont vraiment très, 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 très fortes en umami.
On parlait de la gastronomie japonaise avec ce mot, mais il y a une polémique en ce moment en Italie avec un journaliste qui démonte la gastronomie italienne. Il estime qu'elle n'existe pas et qu'elle serait une invention très américaine à la fin de la Seconde Guerre mondiale, comme notre rédacteur en chef adjoint Pierre Courade. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Vous qui avez fait quand même un livre sur la cuisine et la gastronomie italienne.
L'Italie, on le sait, est un pays assez récent, puisqu'il y a eu une unification des deux Italies assez récente. Mais c'est vrai qu'on s'interroge sur la genèse de certains plats comme la carbonara, dont les Italiens font une énorme fierté, alors qu'en fait, il y a des hypothèses qui montrent que le plat aurait certainement été inventé par les GI qui auraient libéré Rome, donc à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et qui, avec des œufs, du bacon, aurait plus ou moins contribué à inventer ce plat. Donc c'est vrai qu'on sent que les Italiens font un peu de zèle lorsqu'ils nous disent « Ouh là là, surtout attention de ne pas mettre de crème ». En l'occurrence, je trouve que c'est une très mauvaise idée de mettre de la crème dans la carbonara. La crème est un crime. Mais en revanche...
Ne l'oublions jamais.
En revanche... c'est pas un plat si récent et c'est finalement...
Mais ça remet pas en question toute la gastronomie italienne.
Oui, mais je pense que pour le coup, cet observateur italien pousse le bouchon un peu loin. Ouais.
Et écoutez ce qui se passe en régie. Pierre Courade est debout sur son tabouret, et parce que depuis une semaine, il nous maintient cette histoire que la cuisine italienne est une légende. Et voilà, il a gagné. François-Régis Gaudry va dans votre sens. Bravo, Pierre Courade.
Justement, Manon Mariani. Vous parliez des carbonara samedi dernier dans votre émission très très bon sur Paris Première. Vous êtes parti à la recherche des meilleures pâtes de Paris. C'est quoi un bon plat de pâtes, François-Régis Gaudry ?
Je pense que c'est un plat où il y a un parfait équilibre entre la pâte qui doit être évidemment bien cuite, mais ça c'est un peu la base, c'est-à-dire légèrement al dente avec une pâte qui croque légèrement sous la dent, et un bon équilibre avec sa sauce. Il ne doit pas y avoir trop de sauce, et on doit faire en sorte qu'il y ait comme une espèce d'osmose, et précisément l'osmose de la pâte passe par ce mot que j'aime bien, qui est la mantecatura, c'est-à-dire la dernière étape au moment de lier l'ensemble. Certains Italiens appellent ça « the sound of sex », parce que je ne sais pas si vous avez déjà mélangé une pâte, mais il y a un bruit très mouillé quand même dans la pâte.
C'est vrai, c'est juste.
Et cette mantecatura, en général, qui se fait soit avec de l'eau de cuisson, soit avec du fromage, soit avec des jaunes d'œufs s'agissant de la carbonara, c'est effectivement, à mon avis, la mantecatura réussie est effectivement le secret d'une bonne pâte.
Le truc de faire cuire les pâtes avec de l'eau gazeuse, ça c'est de la connerie ?
Oui.
Ça, c'est bullshit.
Oui, je pense.
Quentin.
Pour revenir sur l'umami, on parle souvent maintenant de plats réconfortants, voire régressifs. Mm-hmm. Je sais pas, par exemple, sur des coquillettes au jambon avec du fromage fondant, etc. Vous pensez que l'umami, c'est le réconfort aussi ?
Oui, incontestablement.
C'est le plat de la grand-mère ?
C'est le plat qui enveloppe, qui réconforte. Maintenant, attention, il y a vraiment une autre saveur qui est très concurrente de l'umami pour le réconfort, c'est le sucre. Lorsqu'on évoque un clafoutis ou la crème caramel de la grand-mère, alors là, pour le
coup,
il n'y a pas du tout d'umami, mais le sucre est aussi fait pour nous envelopper et nous réconforter. On peut trouver différentes manières, effectivement, de se faire plaisir. Mais d'ailleurs, il y a un truc qui devient désormais très à la mode, parce que les desserts ne sont pas forcément justement le chapitre culinaire le plus umami. C'est qu'on ajoute maintenant dans certains desserts, et c'est le cas par exemple d'un cheesecake, on peut ajouter par exemple du miso, qui est de la pâte de soja fermentée. Prenez deux cuillères à soupe de pâte de soja fermentée que vous achetez dans une épicerie asiatique ou un magasin bio. Vous ajoutez ça dans l'appareil de votre gâteau, et tout d'un coup vous avez en plus du sucre éminemment réconfortant, une dimension umami qui va ajouter à l'intérêt du dessert.
Je précise juste pour Manon que l'appareil n'est pas le air fryer ou la machine qui fait le gâteau, mais la pâte elle-même du gâteau. Oui, Manon, vous avez une question ?
Non, mais...
Pas du tout ?
Non, mais parce qu'on parlait de mode, on retrouve l'umami de plus en plus, on l'a dit, parmi les candidats de Top Chef. Est-ce que ça veut dire que la cuisine s'uniformise à force que tout le monde suive un peu les mêmes tendances ?
Non, parce qu'il y a en fait 1000 chemins pour atteindre l'umami. L'umami, c'est un graal, c'est un objectif, c'est en général l'objectif plus ou moins conscient de tous les chefs qui se mettent en cuisine. Et après, on peut l'atteindre par des chemins très très différents. Donc là, pour le coup, il y a des combinaisons qui font que ça va pas du tout, à mon avis, standardiser ou unifier la cuisine. Au contraire, ça va même la diversifier. À partir du moment où on aura conscience de cette saveur, on saura tourner autour et la dompter de différentes manières.
Un dernier point qui va dans le sens du côté réconfort de l'umami, vous nous disiez en antenne que le lait maternel, c'était umamiesque.
Ça a été, il est prouvé que le lait maternel que nous avons pour certains d'entre nous, si on a été allaité par notre maman, contient du glutamate monosodique. Et ce qui fait dire d'ailleurs que le glutamate monosodique est certainement un indice, un marqueur qui permet d'identifier nos besoins alimentaires en général. Là où il y a de l'umami, c'est dans notre cerveau reptilien, c'est ce qui permet d'aller vers des nutriments essentiels à notre santé.
En perso, je préfère quand même le parmesan que vous nous avez apporté. Vous écoutez France Inter, il est 16h46. il faut dire que notre réalisateur Gislain Fontana est en roue libre en régie. Ce qu'il nous dit dans le casque, je ne peux pas le répéter à l'antenne, tout simplement. Manon, on découvre la personne à suivre avec vous.
Je vous présente Glenn Vielle. Il a 44 ans, il est français, il est l'un des chefs français les plus inventifs de la gastronomie contemporaine. Enfant, il est diagnostiqué dyslexique, mais décidément.
Ça peut vous tomber dessus à tout moment.
Moi, non, normalement, mais bon. Ça va l'handicaper, en tout cas, pour ses études. Il loupe son brevet, il perd confiance en lui et il ne sait plus quoi faire. Il s'oriente donc vers la cuisine, au départ, sans grande conviction. Il choisit la voie de l'école hôtelière à Vannes en Bretagne et commence sa carrière dans des maisons d'excellence. Il se forme au Meurice, puis au Crillon, mais aussi au Hayat. Et depuis 2015, il est à la tête de l'Ousteau de Beaumanière, mythique institution des Beaux-de-Provence, ouverte en 1945, un établissement qui a vu passer les plus grandes stars de l'époque, Churchill, la reine d'Angleterre, Jean Cocteau. En 2020, Glenn Vielle lui a redonné ses lettres de noblesse en décrochant la troisième étoile que le restaurant avait perdue dans les années 90. Il devient le plus jeune chef de France à atteindre cette distinction. Cette année-là, une consécration. Puis, en 2022, il se fait connaître du grand public en devenant juré dans Top Chef aux côtés d'Hélène Darroze, Philippe Etchebest et Paul Perret. Un rôle qui lui va bien, il est un peu la caution grand frère. Il dit s'émerveiller des nouveaux talents d'aujourd'hui qu'il trouve spontanés, sincères, et il aime travailler sur l'histoire d'un plat avec eux. Pour lui, les mots sont aussi importants. Glenn Vielle le dit, la cuisine, ce n'est pas du décor, c'est du ressenti. Il parle notamment de chaleur confortable pour savourer un plat, il ne sert jamais ses plats trop chauds pour ne pas heurter le palais. Il parle aussi de cette fameuse cinquième saveur. Sauf que pour lui, cette saveur, ce n'est pas l'umami. Pour lui, c'est la fadeur, cette forme de neutralité brute qu'il veut réhabiliter. Elle s'illustre notamment dans un de ses plats phares, un rouge écru non assaisonné. Il explique, ça semble peut-être une erreur pour le palais européen, mais c'est en fait la simplicité et le naturel. Le plat comprend aussi une feuille de rouille très corsée, une petite soca pour équilibrer le tout. C'est bête comme tout, mais il m'a fallu 20 ans de travail pour en arriver là. Il défend aussi une cuisine responsable. Il maintient un menu 100% végétarien lancé dès 1987 à Beaumanière, bien avant que ce soit à la mode. Personnellement, j'attends la fête de fin d'année de saison de Zoom Zoom Zen 2026 à l'Ousteau de Beaumanière. Je vous glisse une petite idée.
Oui, bah pour l'instant, pour 2025, ça sera au Buffalo Grill d'Argentan, à côté de chez moi. Et vous verrez, il y a beaucoup d'umami. On n'est pas
déçus. C'est la soirée France Inter pour le moment.
Et pour l'instant déjà. Et il me semble que vous avez parlé d'une feuille de rouille. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu sur ce qu'est une feuille de rouille? Parce que je connais la rouille. J'adore ça, mais la feuille de rouille, ça me paraît un peu étonnant.
Je pense que c'est de la rouille déshydratée.
Sûrement. Ah, mais c'est une citation de Glenn Vielle.
C'est incroyable.
Vous lui demanderez
une feuille de rouille.
Qui est, soit dit en passant, très porteur d'umami. Donc la fadeur n'est pas forcément antinomique avec l'umami, parce que la cuisine japonaise est très portée sur la fadeur.
Mais il fait partie de ces gens, du coup, qui n'aiment pas l'appellation.
Oui, absolument. Il fait partie des anti-umami.
Alors que vous trouvez qu'il est parmi les plus umamesques.
Un chef 3 étoiles en France, champion de l'umami, c'est Glenn Vielle. J'ai goûté sa cuisine il y a moins d'un an, et je peux vous assurer que dans ses sauces, dans toutes ses préparations, il y a une concentration et une profondeur de goût absolument stupéfiante.
Mathieu Noël sur France Inter.
Ça bouffe des balisto-noisettes et des tubes de lait concentré en rando dans le Jura, et ça se permet ensuite de donner son avis sur la haute gastronomie. François-Régis Gaudry, je vous présente le toupet incarné. Pierre Courade, un homme pétri de contradictions qui a donc réussi à déclarer que la gastronomie italienne était un mythe, tout en commandant une calzone au Nutella.
Ah ouais.
Il est sans queue ni tête, enfin surtout ni tête, dirait l'abbé Chibra. Oh. Bonjour Pierre Courade.
Preuve que la gastronomie italienne n'existe pas.
Oui, mais c'est vrai, non, oui, non, d'accord.
Allez,
d'accord.
Allez.
À vous de nous résumer tout ce qu'on s'est dit sur l'umami en une minute chrono.
La cinquième saveur après le sucré, le salé, l'acide et l'amer, et avant l'odeur du caleçon de Quentin après deux heures d'émission, une saveur qui n'est pas encore homologuée par notre invité François-Régis Gaudry, qui est venu nous expliquer toutes les subtilités de l'umami, un goût que l'on retrouve par exemple dans la soupe miso des restaurants japonais et qui est produit à partir du glutamate de sodium, Cyril. Mais même si ce nom est japonais et qu'il est développé dans la gastronomie nippone, on trouve aussi l'umami dans le brocoli, les champignons de Paris ou encore les petits pois. La viande grillée et le parmesan, c'est un goût qui se rapproche du salé, mais avec une touche réconfortante qui apporte de la satisfaction. Avec une saveur persistante et de la profondeur en bouche, notre invité parle d'un goût salivant, l'exact inverse, des senteurs mêlées de merguez et de pieds de GC dans ses Birkenstock ce midi à la cantine de Radio France. Une saveur addictive, utilisée aujourd'hui en additif, les chips senteurs barbecue dont s'empiffre Cyril devant un bon épisode de Columbo par exemple, c'est de l'umami. En fait, l'umami est presque partout. Nous sommes des monsieur Jourdain de cette saveur, nous a dit François-Régis Gaudry. C'est en tout cas l'excuse que donne Manon à son petit ami quand il n'arrive pas à savoir si dans l'assiette qu'elle lui a servi, il s'agit d'un plat salé ou d'un dessert sucré. C'est tout mamie, lui dit-elle. D'ailleurs, au cours de l'émission, Manon qui remporte un zoom zoom test culinaire.
Brillamment.
Oui, brillamment. C'est comme la gastronomie italienne, c'est une aberration.
Oh. Merci Pierre. Savourez c'est bien votre victoire. Oui, il n'y en aura pas beaucoup d'autres en cette fin de saison. Et on retrouve Manon GC qui a été un peu perdu avec ce thème, je crois.
Bonjour à tous. Bah oui, quand on m'a dit que le thème était où mamie, j'étais là. Très bonne question. Sûrement à l'EHPAD en train de se faire dessus.
Oh, non.
Vous l'avez.
Ah oui,
umami,
on l'a.
Oui, c'est des jeux de mots maintenant que je vais faire. C'est la fin d'année pour tout le monde en fait. Hein, je vous rappelle qu'on est en juin, c'est la Pride. Voilà, les pédocs, on est fatigués. Hein. Donc non, umami ne désigne pas le nom d'une application de rencontre gérontophile, au grand dam de Quentin. Ah bah pardon, quelqu'un qui arpente autant les trottoirs du 16e, Quentin. Je pense que c'est quelqu'un qui a un tropisme sur les ténas. Voilà. Mais umami, c'est pas ça, c'est une saveur. Hein. Et donc là, je m'adresse à vous, François-Régis Gaudry. Peut-on dire d'une téna pleine qu'elle est umami?
Oh
bah, pardon, j'interroge, c'est une émission culinaire, hein. Une transition en tout cas, qui j'espère nous vaudra d'être reconduit l'année prochaine.
Oh.
Ok, oui, bon, évidemment,
bon, genre,
bah,
oui,
bien sûr,
oui,
la carrière qui grommelle, hein, umami, je sais pas, ou papy devant moi. Umami, c'est la cinquième saveur. Cinq saveurs qui ne seront d'aucune utilité à votre cantine d'entreprise. Ah bah nous, chère Radio France, c'est quelque chose. Je pense que la Sybille Veil essaye de nous empoisonner pour réduire les effectifs. Je ne sais pas si vous avez déjà pris, François-Régis, l'éclair au chocolat à la cantine.
Jamais.
Oui, bon, en même temps, on ne vous a jamais vu à la cantine.
Voilà. Si, si, ça m'arrive.
Menteur. Alors, en tout cas, cette pauvre pâtisserie n'a jamais vu de chocolat de sa vie, je peux vous dire. Parce que je n'ai pas votre palais, François-Régis, mais je sais encore reconnaître de la merde quand on m'en sert. Après moi, personnellement, j'avoue, je savais pas qu'il y avait cinq saveurs, vu que j'en connais qu'une seule, à savoir, t'as mangé de l'ananas, quoi.
Non. Je sais, mais...
C'est une blague d'initié, c'est une blague d'initié. Hein. Pour ceux qui l'auraient pas, nos auditeurs, je vous laisse taper sur Google oui. Ananas améliore c'est goût mieux. De quoi. Voilà. Ah bah pardon, hein, je suis peut-être pas critique culinaire, hein, mais ça m'empêche pas moi aussi de faire la semaine du goût. Et alors, pardon, hein, mais moi ou mamie, j'en avais jamais entendu parler. Salé sucré, oui, d'accord. Dégueulasse, bien sûr, hein, comme toute personne ayant déjà dîné chez Marine Leonardi. Mais umami, n'importe quoi. Hein. Puis alors autour de moi, pareil, hein. Personne ne savait ce que c'était. Hein. Franchement, à part évidemment une personne qui était là. Ah mais si, umami, bien sûr, comme mon mec qui cuisine, c'est umami, j'adore. Hein. Vous aurez évidemment reconnu Manon Mariani. Ah ben non, mais toujours plus maligne que tout le monde. C'est incroyable, elle a découvert le gomasio il y a deux semaines, elle croit qu'elle est arrivée. Hein. Mais, non, franchement, vous auriez vu sa tête quand je lui ai dit que je ne connaissais pas umami, c'est Hermione Granger. Désolé, hein, mais moi franchement, je n'ai jamais entendu quelqu'un bouffer un truc et dire « ce ne serait pas un peu trop umami ?» Pas du tout. Stop, désolé, François-Régis, mais là, vous traînez trop dans le 11e. Ah non, faut arrêter, les petits troquets qui font aussi friperie. Non, je rappelle qu'une part de flan et une bière microbrassée pour 57 euros, c'est pas umami. Hein. Ou alors, ouf, mamie bien profond. Pardon, je rigole à ma propre blague. Pardon, c'était tellement nul à l'écrit qu'à l'oral, je me suis surpris que c'est passé. pardon. Désolé, désolé de cette allusion grivoise. Mais je rappelle que ça fait une semaine que YouPorn est fermé. Voilà, bah voilà. Donc la GC a fait ce qu'elle peut, mais elle est un peu tendue. Hein, voilà. Alors, je rappelle que, bon, en plus, sur une chronique sur le goût, j'ai été soft, je trouve. Alors que dans mon caleçon, c'est l'Ukraine.
Oh non.
Ah bah, je suis à deux doigts d'accepter les avances de Pierre Courade. Ah, bah, à mon avis, ce que je vais goûter sera rance et pas umamis. Même si apparemment, le parmesan est umamis. En vrai, umami, de ce que j'ai compris, bon, personne sait ce que c'est. Ah, finalement, un peu comme mon projet capillaire.
Ah bah, oui, très vite, très juste.
Pardon. La traduction serait savoureux ou délicieux. Une chose est donc sûre, zoom zoom zen et tout mamis. Oh, qu'est-ce qu'il faut pas faire pour garder sa place l'année prochaine?
Merci GC, vous avez fait le maximum. Merci François-Régis Gaudry de nous avoir expliqué l'umami. Les auditeurs d'Inter vous retrouvent évidemment dans On va déguster, votre émission du dimanche.
Zoom zoom zen.